France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Gérard Mancé. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons « Galop, marche à huit mains » d'Albert Lavignac, interprété par Alexandre Tarot et Franck Bralet. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours en Corse, pour nous faire visiter ce soir la citadelle de Bonifacio. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron, avec Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Gérard Mancé.
Bonsoir.
Vous venez de sortir un nouvel album, L'Algue Bleue, le 24e, sauf erreur. Vous avez accepté mon invitation ce soir, ce dont je vous remercie grandement parce que vous êtes très rare dans les médias depuis toujours. Pourquoi cette rareté ?
Rare, mais pas trop depuis quelques jours, ou on va dire une semaine ou deux, mais oui, épisodiquement, je ne suis pas rare, mais pour le reste du temps, oui, assez rare. Ben, rareté, je ne sais pas, mais comme je fais un métier un peu différent qui me tient en marge de la scène et de la télévision et des médias en général, sauf la radio et la presse d'ailleurs, mais donc voilà, ben, aujourd'hui, quelqu'un qui ne fait pas de télé, il disparaît, on a l'impression qu'il n'existe pas, donc mon spectre, mon ectoplasme se promène de temps en temps d'album en album, voilà.
Oui, il est bel et bien présent et merci pour cela. Alors, je donne quelques repères biographiques pour indiquer que votre père était ingénieur dans l'aviation, votre mère violoniste, mais dites-vous quasiment femme au foyer, elle écrivait de la poésie, elle dessinait très bien, dessiner c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez un grand frère, élève brillant, une sœur cadette, une position d'entre deux qui est peut-être un peu inconfortable, vous développez une nature... solitaire, qui s'épanouit lorsque chez votre grand-mère vous parcourez des kilomètres en bord de Marne pour pêcher seul. Ce sont des premiers voyages en solitaire, il y en aura bien d'autres. Et si à l'école, Gérard Mancé, vous avez plutôt de mauvaises notes, ce sont les arts qui vous intéressent tout de suite. La musique, l'écriture, la peinture. Dès 15 ans, vous vendez des gravures à Saint-Germain. Puis vous vous lancez dans des études aux arts déco. Vous êtes lauréat du concours général de dessin en 64. Le ministre de la Culture vous remet le prix, c'est André Malraux. Vous avez votre casier à l'Académie de la Grande Chaumière à Montparnasse. Vous allez peindre. Le Salon d'Automne vous accueille dans sa section gravure en 66, année pendant laquelle vous exposez également au Salon des artistes français. Alors, si la peinture, le dessin, la photographie vont revenir au cours de votre vie, mais aussi l'écriture, c'est la musique qui va devenir votre forme d'expression artistique principale. Pourquoi pas la peinture ?
Alors pourquoi pas la peinture ? D'abord parce que je suis arrivé pile aux environs de mai 68, donc il n'y avait plus d'enseignement. Donc j'ai pas fait les beaux-arts. S'il y avait eu un enseignant digne de ce nom pour apprendre toutes les techniques et la facture des siècles précédents, et qu'il eût encore resté un prix de Rome, ça valait peut-être la peine de faire quelques années aux beaux-arts. Et bon, non. Alors donc, j'ai fait les arts déco, qui est une sorte de palliatif, mais je suis pas resté les 4 années parce que, oui, c'était plutôt de l'architecture intérieure, que c'était très intéressant. Mais bon, j'étais assez dilettante et j'ai commencé les premiers 45 tours à ce moment-là pour un ami qui s'appelait Malek et chez Philippe. C'est bien avant que j'imagine un jour faire des choses comme Animal ou tout ça. Voilà. Mais c'est très, très ancien, très loin. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan musical, bien sûr, puisque je venais ex nihilo de cette histoire-là. J'ai appris la musique très tard, enfin vers 14-15 ans tout seul, en 6 mois. Puis j'ai commencé à composer un peu partout et un peu pour tout le monde. Voilà, puis après j'ai eu un studio. Et puis après, moi, j'ai eu la chance que le matériel, on va dire très original, oui, si on part en arrière, la mort d'Orion et tout ça. Après, des matrices et des royaumes de Siam, que toutes ces choses-là aient vraiment intéressé, c'est peu dire, captivé, passionné... Donc j'ai eu, merci mon Dieu, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner des contrats sempiternellement jusqu'à aujourd'hui, où ça continue toujours dans des conditions remarquables, avec des majors où je me suis toujours très bien entretenu avec tout le monde et sans la moindre friction. Là où je voyais autour de moi tous les autres artistes, j'en ai croisé beaucoup, bien sûr, qui n'arrêtaient pas de faire des procès à droite, des procès à gauche. Bon, moi, j'ai jamais bien compris ce phénomène, voilà.
Alors c'est vrai que vous êtes allé rapidement en besogne, mais on va évidemment s'intéresser plus particulièrement au dernier disque en date. Mais c'est vrai qu'il y a cet apprentissage, d'abord ce goût de la musique classique qui vient aussi par votre frère, mélomane, avec qui vous partagez votre chambre, puis la guitare sèche, la batterie, les cours de piano, vous profitez de la non-assiduité de votre sœur pour profiter de son professeur, vous commencez à composer ses chansons. Alors effectivement, mai 68 pour sortir le premier 45 tours, c'est pas le timing idéal, mais quand même, ça permet à des gens d'entendre tout d'un coup cette voix nouvelle. Mais on va dire que le grand acte de naissance artistique de Mansé, c'est l'album La Mort d'Orion, sorti en 70. C'est un album qui est un oratorio symphonique, des arrangements très sophistiqués, qui donne une large place aux parties de cordes. Mais un disque comme celui-là, il tombe d'où? Il vient d'où?
Alors, il serait un peu, j'ai dû dire ça à l'époque, un peu dada, quoi. C'est du collage, pas du copier-coller, hein, pas de l'écriture automatique du tout. Au contraire, très très vigilant sur tout. Mais l'inspiration, à l'état brut déjà, qui m'habitait, qui tombe. Et puis qu'il faut élaguer, il faut être très vigilant. La petite pousse, il faut faire très attention à ce qu'elle ne soit pas désordonnée. Donc voilà, donc La Mort d'Orion, ça m'a échappé. Mais vous savez, c'était quand même l'époque où tout le monde partait, enfin beaucoup de groupes anglo-saxons partaient dans des sagas, en France moins bien sûr. Comme moi, j'avais pas de référence, j'en ai quasiment jamais eu. Bon, j'écoutais les Beatles comme tout le monde, les nonnes, mais pour le reste, non. J'entendais passer des noms de groupes anglo-saxons, mais j'écoutais pas, il n'y avait pas de concert à l'époque, rien ne passait à la télévision. Donc il y avait les irréductibles qu'allaient voir dans des petites salles de 300 places, quelques groupes qui sont devenus mythiques depuis, mais moi j'ai jamais fait ça. Non, j'étais dans mon petit univers. Comme, vous savez, le vrai problème, c'est que, ça aussi je l'ai vu au fil des années et des décennies, c'est que ceux qui n'ont pas beaucoup d'inspiration, ou qui n'en ont pas du tout d'ailleurs, et qui vont essayer de faire feu de tout bois en voyant comment a fait un tel, alors les Bowie, les Rimbaud, les machins, ils mettent tout sur la table, ils essayent de se retrouver là-dedans. Je n'ai pas eu besoin de ça. Cette sorte de handicap, c'est que tout tombait tout seul. Villon était là, Ronsard était là. Peut-être Verlaine d'ailleurs. Enfin bon, ces choses-là me semblaient très proches. Hein. C'est pas du tout prétentieux. Ça s'est produit comme ça, tout simplement.
En 2014, dans Un oiseau s'est posé, vous avez fait plusieurs reprises. Alors j'avais envie de profiter de parler de La Mort d'Orion pour écouter ce morceau chanté en anglais avec Mark Lanegan, l'Élégie funèbre. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de ce duo, Gérard Mansé?
Alors, c'est parce que d'abord, depuis toujours, j'avais voulu avoir quelques collaborations anglo-saxonnes. Les musiciens, on va dire, j'en ai eu plusieurs des Anglais qui étaient remarquables. J'étais émerveillé par cet univers, encore une fois, que je ne connaissais pas à l'extérieur, mais j'avais ce studio qui s'appelait le studio de Milan, et donc j'en voyais passer quelques-uns dans le studio, et donc entre quatre murs, je voyais la différence phénoménale de la dextérité, de l'intelligence, de la décontraction, de tous ces musiciens. Et j'en ai eu deux, j'ai eu un qui s'appelait Vic Emerson au clavier, bon, malheureusement il n'est plus là, qui m'a fait des choses remarquables, notamment dans Matrice. Et puis, parce que, juste une parenthèse pour les mélomanes qui écouteraient, c'est que les anglo-saxons ont les anglais, pas les, parce que les américains c'est autre chose, mais les anglais, et je parle surtout des claviers, ont cette particularité d'attaquer les accords, ce qu'on appelle les renversements, d'une manière totalement différente. Donc, un do majeur, chez eux, ça n'est pas un do majeur. Alors que tous les musiciens français, un do majeur, on pleure tellement je vais pas citer de nom, mais c'est un do majeur qu'on a entendu 350 millions de fois. Donc, Voilà. Mmh. Donc Vic au clavier, je savais ce qu'il fallait lui demander, je savais où l'emmener, et il me fait des choses. Et ben c'est lui qui a fait, enfin avec moi, mais revivre. Mmh. C'est lui qui joue le piano dans Revivre. Alors pour revenir au pourquoi de Élégie funèbre, Cover Me With Flower of Mauve, c'est que dans ces quelques musiciens, j'avais un Américain, Paul Breslin, qui malheureusement n'est plus là non plus, qui était un guitariste, alors là vraiment de la côte ouest, avec les cheveux où il fallait, une sorte de grand énergumène dégingandé de 2 mètres de haut, avec des bras immenses, enfin, d'une gentillesse, d'une douceur, mais qui avait une voix terrible, et rocailleuse, tout ce qu'il faut du blues, bon. Et donc, 2-3 fois, je lui ai demandé de me faire des adaptations parce qu'il avait fait, il avait travaillé, il avait notamment fait des chansons pour Ray Charles, donc quand même. Et il m'avait fait quelques textes. Bon, il me les faisait. C'était très 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 fouillis, très compliqué, mais bon, j'avais pas de référence pour. Et puis un jour, à peu près aux environs de cet album, donc il y a une quinzaine d'années là, Un oiseau s'est posé. Je ne sais pas quel journaliste ou ami m'a dit, Gérard, j'ai lu. Il y a un groupe, il y a un musicien américain un peu mythique, Barré, qui te cite dans les meilleurs albums avec La Mort d'Orion. Bon, j'ai découvert ça, et donc c'était le Mark Langan en question. Et puis on a communiqué un peu par mail, c'était le début des mails, et je lui ai proposé ça, donc parce qu'il voulait une collaboration. Il a même fait un titre qui s'appelait Mansay, je crois. Bon, en tout cas, et je voulais que ce soit Paul Breslin, là, qui me fasse le texte. Parce que je voulais absolument maîtriser, comme je cherche toujours à tout maîtriser. L'Élégie funèbre, c'est très particulier quand même. Bon, là, on est dans Villon, effectivement. Donc, je voulais une sorte de vieil anglais à la Shakespeare plutôt que à la Rihanna, quoi. Et donc, il m'a fait un texte absolument magnifique. Et je l'ai fait en entier par Marc, et puis en entier en français. Puis j'ai inversé un peu, j'ai choisi les
prises. Alors, on va entendre, en effet, The Cover Me With Flowers of Mauve.
Cover me with flowers, trust. Ashes to ashes, dust to dust. Cover me with flowers thus. Let the reaper come if he must. So
laissez me parler à l'oreille, faire miel de moi l'abeille, et dans mon ombre laisser vivre, quand bien même le bateau ivre.
I tumble. In this world, believe you me, nobody ever thanked me. Oh, whenever, or wherever, or whoever, they could never have cared less. It's for my flesh and death so pale, that I do pray thou shalt not fail. None shall put me in this ground without someone else also going down.
Que reste ici de mon passé, dans ce caveau frère passé, l'habit de noces et le carton de ma langue et de mon manteau. My loss.
Spider in his crawl, my eyes are shut, the cornea under my brow is forever.
Couronnez-moi de fleurs mauves, si voyez que ma vie se sauve.
Let not the darkness cover all, revel in the light of horizon. For never, take care of me, anyone may, and to the heavens claim an ave.
Que Dieu le dépose ou l'apporte, s'il fut seul au pied de ma porte. Close.
Cover me with flowers thus.
Couvrez-moi de fleurs, s'il le faut.
Ashes to ashes, dust to dust.
Cover me with flowers of mauve, avec Mark Lanegan. Alors, j'ai tellement écouté ce morceau, j'ai ramassé que l'écouter avec vous à 2 mètres de moi, c'est
moi
un peu étrange.
Je m'en souvenais, mais je veux dire, là, je l'écouvre au casque, je suis émerveillé. non, mais parce que je vais faire une parenthèse assez longue. C'est l'archétype même, déjà, de ma manière de travailler très particulière. C'est-à-dire que là, j'avais beau avoir 22, 23 ans, sur la mort d'Orion, il y a déjà un piano à l'envers, il y a déjà des cordes à l'envers, des cordes à l'endroit, qui joue des choses différentes que j'avais écrites. Bon. Et puis, il a fallu, donc 40 ans ou 30 ans après, quand j'ai fait ça avec Lanegan, que je redécouvre, que je recherche à la cave, je sais pas quoi, mes partitions, mes originales, des trucs. Bon, parce qu'à l'oreille, c'est inaudible de refaire les traits. Alors, bon. Et donc, j'ai finalement à peu près reconstitué tout ça. Et, dernier détail, j'étais ravi, enfin, c'était ça commençait à ressembler à... Et j'appelle Axel Bauer pour qu'il vienne me faire une guitare, une dernière couche, une couche comme ça, parce qu'on se connaissait peu, mais on commençait à se connaître. Oui. Il joue magnifiquement bien. Alors il est venu, mais alors comme tout le monde, il voulait écouter, il aurait aimé entendre, il aurait aimé pouvoir refaire 3-4... Non, non, tu t'assois, tu écoutes, tu mets le casque, tu joues, tu t'accordes, tu joues. Une voix, une prise. Ben voilà, c'est ce qui s'est produit. Je suis toujours pour la spontanéité. J'aime pas aller, on écoute, on va faire mieux, on va affiner le truc. Non, non, pas du tout. On a une émotion, on n'en a pas. Si on n'est pas un musicien digne de ce nom, on dégage. On entend une fois et on y va. Ah. Ou alors on écrit tout, les cordes, l'instrumentation, ça c'est autre chose.
Ça c'est votre partie. Il y a eu ce studio Milan dont vous avez parlé. C'est là que vous enregistrez votre première... album personnel, on va dire, dans ce Il y a une route avec ce 45 tours et Voyage en solitaire, bien sûr, mais les voyages, ils vont suivre. Vous laissez le studio derrière vous, Gérard Mancé, vous allez beaucoup voyager, principalement en Amérique latine, en Asie. Ça va nourrir des albums, bien sûr, comme Royaume de Siam, qui sera d'abord un disque avant d'être le titre d'un roman que vous écrivez, des romans, des récits, des carnets de voyage, vous en publierez ensuite régulièrement. Quelle place occupent cette écriture littéraire dans votre production?
Alors, je me suis souvent demandé si vraiment elle servait à quelque chose, parce que... Non, mais j'entends par là que j'avais pas la veine. J'aime beaucoup écrire, donc petit à petit, comme tout le monde, je m'y suis mis, j'ai écrit beaucoup de pages, il faut écrire énormément de pages, donc maintenant j'ai tout à fait un style, notamment avec les deux derniers, qui sont Cupidon de la nuit et Récits barbares. Là, j'ai vraiment... une langue que je trouve merveilleuse, à l'égal des Andersen et compagnie. Enfin, là, on parle de traduction, donc c'est autre chose. Mais comment dire, oui, je me demandais, parce que le public n'est pas du tout le même. Je ne vends pas de romans ou de récits à ceux qui aiment ma musique, donc c'est compliqué. Mais finalement, j'ai un jour découvert, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, que ces milliers d'heures, ces tonnes de milliards d'heures que j'ai pu passer à écrire, réécrire, corriger, raturer, imprimer, bon, et bien finalement me servent en 3 minutes quelque chose qui naît de tout ce fatras que la mémoire a dû enregistrer quelque part. Alors les rimes viennent, les machins, ta ta ta. En plus, quand même, un détail, c'est que c'est très compliqué d'écrire. Enfin, il faut se méfier parce que la musique, on a des mots redondants, on répète des choses, on a des raccourcis, on a des formules très rapides qui n'ont rien à voir avec ce que doit être la littérature. Et donc, y a une sorte de gesticulation à reculons qu'il faut faire quand on se met à écrire, qui est un peu, bon, bah, j'ai fini par m'y habituer, mais...
Et puis il y a aussi cette pratique, on va dire, plastique, les dessins, les peintures, les photographies. Il y a eu plusieurs expositions au milieu des années 80, mais aussi bien plus tard en 2011, quand vous avez publié Journées ensoleillées, des photos prises un peu partout dans le monde. Et puis une grande exposition qui avait eu lieu à Bruxelles, à la Galerie Petit Papier, avec beaucoup de tirages photographiques, des dessins, des peintures à l'huile. La production plastique, pour vous, Gérard Manset, elle vient... par moment, ou est-ce que c'est une pratique régulière que vous choisissez parfois de montrer ?
Alors, la photo, c'est plus simple. La photo, d'abord, j'avais des labos, je faisais mes tirages, j'ai toujours fait beaucoup de noir et blanc. Je suis un technicien de la photo. Je ne suis pas simplement allé dans tous les coins avec une sorte d'instamatique ou je ne sais quoi. Non, je revendique maintenant. Au début, je ne le revendiquais pas, mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais un travail photographique qui peut-être n'invente rien, mais qui est beaucoup plus authentique que beaucoup de photographes que je ne vais pas citer des noms, mais qui sont dans des agences et qui ont été envoyés dans des situations, sur des reportages, et qui n'ont jamais, je m'en suis aussi rendu compte après, choisi eux-mêmes un terrain pour aller un terrain privilégié, quelque chose qui les faisait rêver. Personne. Bon, les écrivains d'ailleurs pareil. Enfin, pour l'essentiel, il y a quelques exceptions. Et donc ça, la photo, donc c'était relativement simple quand même, parce que ça, on empile, on archive, on choisit, on sélectionne. Je faisais mes livres, mes maquettes, j'ai toujours fait l'artwork de tout. Et par contre, la peinture, c'est beaucoup plus compliqué, parce que il faut changer de peau, de vêtements, de carapace, de panoplie. Il faut entrer dans un univers. Beaucoup plus, pas onirique du tout, mais enfin bon, il faut se réapproprier la matière, le matériau, le toucher, les huiles, les pinceaux, les machins. On peut pas faire 3 heures de temps en temps, 4 heures. C'est parti pour des années, on ferme tout et on fait que de la peinture. Donc c'était compliqué.
Y a cette idée quand même que vous ne voulez pas vous cantonner à une seule forme d'expression, Gérard Manset. Puis pour dire que la technologie a toute son importance aussi, elle vous ramène très nettement à la musique à la fin des années 80 avec un remixage digital de votre œuvre, mais avec les albums Lumière et Matrice aussi, par exemple, pour lesquels vous utilisez des boîtes à rythme. Vous avez aussi envie d'exploiter les outils nouveaux. Comme des outils.
Alors, ça va peut-être sembler un peu fastidieux, mais il y a des aspects techniques tragiques des époques que j'ai traversées, que d'autres, tout le monde les a traversées. Mais d'abord, l'histoire des boîtes à rythme. C'était la DMX, les premières boîtes à rythme dans Lumière. Mais pourquoi ? Parce que je commençais à être fatigué d'avoir des discussions avec les 2-3 batteurs qui étaient très talentueux, avec lesquels j'étais ami, mais ça accélérait, ça pressait, on reprenait. J'aime pas les cuisines, on passe une journée sur un titre. Et donc j'ai pas, je suis parti là-dedans ça m'a quand même rassuré d'avoir des boîtes à rythme où la basse pouvait être présente beaucoup mieux. Alors ça a donné Chambre d'Asie, des choses comme ça, et beaucoup de choses. À la relecture, évidemment que c'est un petit peu... factice, un petit peu synthétique, toutes ces boîtes de l'époque. Mais bon, au moins ça permettait à l'imaginaire de se développer dans un autre axe, parce qu'il n'y avait pas la contrainte du batteur, peut-être qu'allait déraper au bout de 4 mesures, accélérer. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, malheureusement, qui a duré deux décennies, c'est le numérique. C'est que tous les débuts du numérique, au début de ce qu'on a appelé Pro Tools après, mais ça a été des catastrophes sur le plan technique. Aucun ingénieur ne savait maîtriser la chose. Alors peut-être qu'à Londres ou peut-être qu'à Los Angeles, je pense qu'eux avaient quand même un train d'avance. Mais en France, tous nos pauvres ingénieurs étaient largués. Je n'en ai pas croisé un dans tous les studios de l'époque qui ait pu donner des réponses aux clics numériques, aux distorsions, à un son très quelconque. Alors j'ai quelques albums comme ça qui ne m'ont pas plu à l'époque sur le plan du son, parce qu'on était passé dans le tout numérique, c'est la Vallée de la Paix par exemple, qui est très métallique. Et puis il y en a quelques autres. Alors bon, j'étais comme tout le monde là, j'avais pas de solution miracle, sinon tout faire live, enregistrer sur une scène de spectacle ou autre chose. Mais en studio, c'était compliqué.
Alors on en vient à cette algue bleue, l'algue bleue, le titre de ce nouvel album, avec d'abord un petit détour par une archive. En novembre 2022, je recevais Enki Bilal dans cette émission. Écoutez cet extrait.
La peinture, la couleur, c'est un élément narratif. Il y a les mots, il y a le mouvement, le dessin, et puis il y a la couleur. Donc c'est pas juste pour faire joli ou pour faire réaliste. Donc je me suis rendu compte que le bleu m'attirait énormément et que finalement, il proposait des utilisations multiples. Il pouvait être utilisé dans différents sens. Et c'est ce qui m'a amusé, parce que des questions sont venues très vite. Et pourquoi le bleu? Alors le bleu, c'est pas seulement la mer et le ciel, évidemment. C'est ça, c'est l'apaisement, c'est ce qu'on aime dans la nature, avec le vert, évidemment, et puis toutes les autres couleurs. Mais c'est aussi un moyen d'orienter le récit différemment. Alors, si on regarde bien ce que j'ai fait aussi bien dans mes films, un de mes films, Tycho Moon, le personnage joué par Michel Piccoli, a une tache bleue dans le cou, une tache bleue qui est un maléfice, qui est malsaine, enfin, c'est une maladie quasiment, on ne sait pas d'où elle vient, et c'est un marqueur qu'il veut absolument effacer, etc. Donc c'est négatif, ça peut être très négatif. Le bleu de la femme piège, c'est sensuel, c'est mystérieux, etc. Là, dans Bug, il y a une tache bleue aussi sur le visage du personnage.
Il va se répandre.
Bon, mais parce que lui-même, il est habité par un bug, donc une espèce de petite bestiole, mais extraterrestre, qui est bleu. Donc on saura ça, il y aura des explications un peu plus ou moins à la fin, tout ne doit pas être expliqué.
Bien sûr.
Mais en tout cas, voilà, donc le bleu comme couleur, comme un marqueur, mais très libre. Donc c'est pas une seule signification.
Alors Enki Bilal, il avait notamment signé la pochette de Route Mansée, cet album où de nombreux musiciens et musiciennes reprenaient des chansons que vous avez écrites, Gérard Mansée. On va écouter dans un instant le morceau qui donne son titre à l'album, L'Algue Bleue. Alors pour vous, de quel bleu s'agit-il?
Ah, je ne pas marcher sur les plates-bandes d'Enki Bilal, qui était remarquable. Là, j'aime son élocution très près. Voilà, non, c'est très bien. D'ailleurs, je me disais, en l'entendant, c'est extraordinaire quand même l'imaginaire pour quelques-uns qui ont cette chance. Et voilà, il invente des choses, il dit des choses. Ça ne viendrait à l'idée à personne de développer qu'il y a 40 sortes de bleus et qu'il en a mis dans le cou de machin et sur le... Bon. Bravo. Non, moi, j'ai aucune idée comme ça. C'est une histoire qu'on m'a racontée à Copacabana un jour, comme je le dis, voilà, mais ça s'arrête là. Moi, quelquefois, une phrase suffit, et puis je bricole, je fais mes petits machins dans mon coin.
Une phrase peut déclencher, un mot peut déclencher.
Oui. Bon. Oui, l'algue bleue, c'était quand même étrange, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Oui, qui génère des rêves, des machins, on s'endort, on est ailleurs, autrement, passons.
Je connais pas.
J'ai pas voulu entrer dans les détails. Je ne veux pas non plus. Je suis très, pas dubitatif, mais très réservé quant à l'élucidation des réalités. Voilà, je ne veux pas savoir au-delà de ces Jules Verne, quoi. Je suis plutôt dans Jules Verne. C'est-à-dire, on arrive face à une île, on ne sait pas, on va pas aborder, on sait pas ce qu'il y a, si c'est des orang-outans, des reptiles, rien du tout, de la verdure. Voilà, restons à l'extérieur.
Mais écoutons L'Algue Bleue.
Andrea me disait qu'au-dessus de son lit, une algue que beaucoup appelaient l'algue.
prenait la couleur du futur. Elle croyait encore atteindre le message que nous brodions ensemble emplis de créatures. L'algue sèche comme Andrea prenait une teinte cireuse. J'allais sur le rivage, tentais de la cacher, ôtais de sa gorge l'algue miraculeuse. L'eau montait dans sa chambre emplie. Faut-il se séparer de ce que nous aimons sans retourner toujours reprendre son avion, oublier les serments qu'ensemble nous avons.
L'algue bleue, morceau qui donne son titre à votre nouvel album. Gérard Manset a bien entendu ici l'importance, évidemment, des textes dans vos chansons. Interpréter une chanson, c'est aussi en révéler tout son sens. Et à ce propos, on enchaîne avec un extrait des Avoinules de votre ami Alain Bachung sur France Culture en 2003.
La valeur des mots, c'est le premier truc qui m'a paru important. Tel ou tel mot dans tel ou tel contexte. Il peut devenir précis, ridicule, vague, faux, alors que c'est le même mot, contradictoire. C'est parfois dans la langue française où on trouve des espèces de paradoxes qui sont en eux-mêmes des sujets de chansons, qui peuvent déclencher un sujet, enfin... un texte. Parce que dit d'une certaine manière, il peut dire son contraire, alors que tout le monde est d'accord. On est d'accord pour être presque sur une fausse route. Elle est terrifiante, cette langue, hein, des fois, quand on réfléchit.
Elle est terrifiante, cette langue, pour vous, parfois, Gérard Manset, comme le dit Alain Bachung.
Elle est assez fascinante, c'est pour ça que je suis très réservé sur les auteurs étrangers. Je parle de littérature, là, pour les traductions, parce que j'ai encore eu le cas, là, il n'y a pas longtemps, une discussion sur Nietzsche. Bon, bah, alors, une traduction d'il y a 40 ans qui est très belle, et puis une, là, qui a 20 ans, je ne vais pas citer les éditeurs, qui est très quelconque. On se demande d'un seul coup, il faut tout banaliser, il faut tout expliquer aujourd'hui. Bon, en tout cas, non, donc moi, je reste sur les Balzac, les Zola, les... voilà.
Et les Manset.
Oui, oui, qui est très vigilant, qui est très vigilant. Évidemment que je ne mets pas un mot à la place d'un autre. Encore une fois, ils me viennent en général comme ça, mais ça ne me gêne pas de tout jeter ou d'en jeter trois phrases sur quatre quand c'est pas.
Je vous ai vu, hein, avant que cette émission ne commence tout à l'heure, Gérard Manset, vous avez un papier devant vous et je vous ai vu écrire, parler à voix basse. C'est un texte qui venait.
Oui, il est venu, il sera probablement d'ailleurs, je suis très content. J'en ai écrit une dizaine de lignes, à l'arrache, comme ça, c'est venu tout de suite, oui, de ma petite promenade autour de la maison de la radio. Mais c'est toujours des choses que je connais, que je ressasse, plus ou moins. Ça me revient sous des formes différentes, avec des visages différents. Mais c'est comme ça. J'ai cette chance de que ce petit parcours réapparaisse et se réinitie sous des formes différentes.
Comme Bachung parlait de l'importance de... Un mot peut vouloir dire une chose ou son contraire selon comment il est dit. Est-ce que vous faites beaucoup de prises pour votre voix, clairement?
Non, et alors j'amènerai une précision qu'Alain Bachung n'a pas dite, mais je pense que c'est ça qu'il avait en tête. C'est pas suivant la manière dont il est dit ce mot qui prend une signification différente, c'est le contexte. C'est pas seulement l'intonation. Lui avait un phrasé très particulier et très beau, donc évidemment qu'il pouvait faire donner une apparence au mot mais c'est plutôt le contexte, oui.
Sa place dans la phrase.
Oui, sa place dans la phrase. Souvent les inversions, la poésie c'est ça. Ouais. Hein.
J'avais envie quand même d'écouter un autre extrait de ce nouvel album avant que notre entretien ne se conclue. J'ai choisi la mélancolie, alors je ne vais pas vous demander d'exégèse, mais là ce sont les paroles d'abord ou la musique? Comment ça fonctionne?
Non, c'est très souvent les deux en même temps.
En même temps?
Oui, très souvent. C'est rare que, comme vous m'avez vu tout à l'heure, j'écrive 10 lignes quelque part. Sans ça, ça reste un poème ou un texte. C'est très difficile pour... Enfin, je répugne à mettre un texte en musique. Et je trouve ça assez dévalorisant. Et tous ceux qui ont mis Léo Ferré ou d'autres qui ont mis quelquefois...
Verlaine ou Apollinaire.
Oui, je trouve pas ça
bien. Pas pour vous. Donc la mélancolie, les deux en même temps sont venus.
Oui, oui, oui. Oui. Oui, il y a un phrasé dans le truc, la musique est dedans, il y a un lyrisme. Bon.
On l'écoute.
Savez-vous la tristesse, c'est comme la pluie, il y avait du soleil, mais la joie l'est aussi, comme une fleur qui pousse, une branche brisée qui repousse. Au printemps, savez-vous la tristesse, c'est comme la pluie, il y avait du soleil, et puis l'on se redresse au fond du ciel. Savez-vous la tristesse, c'est comme la nuit qui viendrait sur
Avez-vous la tristesse, la mélancolie, comme la pluie? Mais la joie l'est aussi, l'est aussi.
Il ne me reste hélas que le temps de rappeler que ce nouvel album, L'Algue Bleue, vient de sortir chez Parlophone, et le temps encore, bien sûr, de vous remercier, Gérard Manset, d'avoir été notre invité. Merci à vous.
Ben merci aussi. Merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Alexandre Tarot est un pianiste rare, magnifique interprète de Rameau, Ravel ou encore Scarlatti. Il ouvre les portes d'une sensualité rare avec son instrument. Pour son nouveau disque, Four Hands, paru sur le label Erato, il a choisi d'inviter une vingtaine d'amis à exhumer les richesses du piano à quatre mains. Chacun des invités interprète avec Tarot un morceau court qui lui correspond. Le répertoire du disque, qui va de Haydn à Glass en passant par Bizet et Poulenc, a de quoi satisfaire tout à chacun. Mais c'est surtout la forme qui est passionnante. Les deux pianistes jouent sur le même instrument, l'un s'occupant des aigus, la partie prima, l'autre des graves, la partie segunta. Tout l'enjeu est alors de se compléter sans s'empêcher. Il faut apprendre à transformer la contrainte de l'autre en une coopération heureuse. Extrait choisi avec Galomarche à huit mains d'Albert Lavignac, arrangé pour quatre mains par Léon Lemoine et interprété par Alexandre Tarot et Franck Bralet.
Thank you.
C'était Galop Marche à 8 mains d'Albert Lavignac, arrangé pour 4 mains par Léon Lemoine et interprété par Alexandre Tarot et Franck Bralet. Alexandre Tarot sera en concert à la Philharmonie de Paris le 13 mai prochain.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours en Corse, toujours à Bonifacio. Hier, je vous présentais Derenava, la Biennale d'art contemporain qui s'infiltre dans les lieux emblématiques de la ville. Ville qui n'en manque pas d'ailleurs, des lieux tant son histoire mouvementée et riche en rebondissements. Alors je vous propose, après les chants polyphoniques, de nous glisser dans une visite historique de la ville qui commence là juste dans 5 minutes.
Baptiste Di Simone, assistant de direction au service patrimoine de la commune de Bonifacio, également diplômé guide conférencier. Et donc on fait cette visite dans le cadre de l'animation du label Ville d'Arrêt d'Histoire qu'a obtenu la commune en 2019. Et c'est pour nous un plaisir de vous recevoir et de vous faire un peu découvrir une partie de notre patrimoine, de notre histoire et de notre identité. Donc, pour vous faire un petit résumé, ici vous êtes à Bonifacio. Bonifacio, c'est une cité qui est très visitée. Il y a plus de 2 millions de visiteurs par an. C'est une ville qui est visitée, qui est admirée, mais qui n'est pas encore assez racontée. Voilà. Et donc l'obtention de ce label, il se fait aussi dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire depuis plusieurs années. À Bonifacio, nous avons une identité spécifique qui se distingue du reste de la Corse et qui est assez particulière en Méditerranée. Voilà. Donc ce site bonifacien, il est très très ancien. Il s'est formé il y a moins de 15 millions d'années, à peu près. À la base, le bloc Corso-Sarde était un seul bloc. Donc il n'y avait pas d'espace, je dirais, entre Bonifacio et aujourd'hui Santa Teresa, qui est juste en face. Et avec la tectonique des plaques, le mouvement, le bloc Corso-Sarde fait une rotation de 45 degrés et se positionne à peu près dans la dimension dans laquelle il est aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que vont se former ce que vous avez juste derrière vous, les bouches de Bonifacio. Et la première spécificité de Bonifacio, c'est sa géologie. Parce que tout l'extrême sud de la Corse, vous êtes à 80% dans du granit, et nous sommes sur du calcaire. Ça, c'est le premier facteur de notre identité. C'est-à-dire qu'on est sur un site exceptionnel, et la ville, elle s'est développée en prenant en compte cet aspect-là. Ensuite, Bonifacio, c'est avant tout un abri naturel très recherché par les marins. C'est un grand port de commerce. En particulier pendant toutes les périodes préhistoriques, antiques, modernes et médiévales. Et c'est à ça que l'on doit la spécificité du site bonifacien, c'est-à-dire que vous rentrez dans ce port qui est abrité de tous les vents et qui est surtout invisible depuis la mer, parce que Bonifacio est une presqu'île. Ici, nous sommes au centre même de cette presqu'île. Nous sommes rattachés par un petit couloir de seulement une centaine de mètres de large, au reste de la Corse. Donc on est dans un espace très restreint, mais bien évidemment, ce qui a fait l'identité bonifacienne et sa spécificité, c'est que nous nous trouvons au milieu d'un détroit. Et forcément, qui dit milieu d'un détroit, dit un espace très convoité par toutes les puissances de Méditerranée, quelles qu'elles soient, durant les siècles. En Corse, on a appelé le XVIIe siècle le siècle de fer. C'est-à-dire que Gênes a définitivement mis la main sur l'île et sur toutes les contrées de cette île. Elle y impose sa loi. En 1729, les Corses prennent les armes et se révoltent parce qu'ils ne se sentaient pas représentés dans les instances génoises, parce qu'il y avait une politique fiscale très agressive, des impôts qui, de base, avaient été prononcés temporairement pour construire des tours ou pour construire des fortifications qui, finalement, vont rester. Et comme on dit chez nous en Corse, outropoustropia. Et donc, les Corses se révoltent. Donc ça c'est le père de la patrie corse, qui est Giacinto Paoli, le père de Pascal Paoli, qui prend la tête des révoltés. Donc ça commence en 1729. Les Génois sont de suite débordés par une révolte populaire. Et donc, il y a ces révolutions de Corse. Bonifacio n'y prend pas part. Hein. Nous sommes une colonie génoise, nous sommes protégés par ce que vous avez vu, hein, nos énormes fortifications. Paoli va tenter à maintes et maintes reprises d'attirer les bonifaciens dans son camp. La réponse, elle a toujours été identique. Nous sommes génois, nous ne nous considérons pas comme corse, et un point c'est tout. Voilà. Donc il y a ces révoltes. Les Génois sont complètement dépassés et vont faire appel à l'Empire de Charles IV et à la France, dans un premier temps. Donc la France, elle intervient une première fois en Corse de 1731 à 1734. Et donc ensuite, une fois que la situation pour Gênes a été rétablie, les Français s'en vont et Gênes reprend un peu la main, sauf que les Génois sont déjà au bord du gouffre. Et la situation, elle va s'éterniser jusqu'en 1755 où la Corse va déclarer son indépendance. Bonifacio, ville commerciale par excellence, se retrouve d'un coup ville frontière aux confins d'un grand empire de l'Europe, hein, d'un grand pays européen, isolé dans une région où derrière nous c'est semi-désertique, il n'y avait pas de ville à l'époque, voilà. Et c'est pour cela que Bonifacio va devenir une ville garnison, une ville strictement à vocation militaire. Les relations commerciales avec la Sardaigne et l'Italie sont volontairement coupées. C'est ce qu'on a appelé la politique de francisation, qui était générale à toute la Corse. La définition de francisation, c'est le fait, c'est ce qu'a fait la France pour déraciner les Corses de leur ère culturelle naturelle, pour qu'elles s'intègrent dans ce nouveau ordre établi. Voilà, parce que dans les régions centrales de la Corse, les régions montagneuses, avant le XVIIIe siècle, les relations avec la France étaient inexistantes. Quand vous prenez la Corse sur une carte, vous avez Gênes à une centaine de kilomètres et la Toscane à 80 kilomètres et la Sardaigne à 10. Paradoxalement, nos frères sardes, avec qui on a toujours eu de bonnes relations, du jour au lendemain deviennent nos ennemis. Voilà. La francisation, ça s'est manifesté par deux choses. La première, c'était sur le terrain militaire. Et donc, il y a une terrible politique de répression qui est mise en place par la monarchie française, et ensuite même par Napoléon Bonaparte, qui va accéder au pouvoir et qui va poursuivre cette politique. Et sur le terrain culturel, il a fallu pour les Corses apprendre à parler français, et pour les Bonifaciens aussi. Donc, nous avons notre propre langue, notre propre dialecte, originaire du Génois en raison du passif historique de notre ville. Et donc, il a fallu pour les Bonifaciens et les Corses apprendre à parler français, parce que les Corses parlaient le corse, et la noblesse parlait un italien parfait, et les relations avec l'Italie et la Toscane en particulier étaient plus que fraternelles. Et donc, on est dans ce basculement du 19e siècle. Pour introduire un peu tous ces propos sur ce Bonifacio génois, ici, nous sommes en plein centre de la ville génoise. Nous sommes dans l'édifice Sainte-Marie-Majeure, qui est sûrement l'édifice le plus symbolique de la ville, puisque lorsque les Génois s'installent à Bonifacio, ils vont construire la ville à partir de l'église, tout simplement. Voilà. Donc, lorsque vous prenez un plan RN Bonifacio, vous avez Sainte-Marie-Majeure qui est en son centre, et les quatre rues principales de la ville, elles partent d'ici. Et donc ici, on est dans le quartier véritablement politique, puisqu'ils se réunissaient dans cette église même pour prendre des décisions. Voilà. Et vous avez cette loge, qui est une sorte de préau, qui a été construit au XIVe siècle, et sous cette loge, c'était le cœur de rassemblement de la communauté bonifacienne, où chaque mardi et chaque vendredi matin, les bonifaciens pouvaient rendre visite aux autorités politiques de la ville et pour faire part de leurs doléances. Voilà. Donc la vie de la cité, elle se déroulait principalement ici. On passe devant l'escalier du Roi Dragon qui sont l'un des éléments incontournables du patrimoine bonifacien. Ces escaliers ont été construits en 1480. Ce sont des escaliers de secours à la base qui servaient justement en cas d'attaque à prendre la fuite, parce que vous avez un endroit tout en bas, il y a 189 marches tout en bas où on a la place pour mettre des navires et mettre des bateaux pour prendre la mer et partir en cas d'attaque. Donc il porte le nom de Roi d'Aragon puisque le Roi d'Aragon a convoité la Corse et Bonifacio, il y a eu un siège. C'est le plus grand moment de notre histoire, c'est le siège de 1420. Voilà, c'était un empire très puissant qui a réussi à conquérir toutes les îles de Méditerranée en même pas un siècle, sauf la Corse. Donc c'est l'un des sièges les plus emblématiques du Moyen-Âge. C'est un siège qui a été extrêmement long, qui a duré 3 mois, au bout duquel il y a eu d'énormes tractations, et c'est finalement l'État génois qui a dépêché une flotte de secours au dernier moment, alors que l'ultimatum avait été fixé de rendre à la ville le 1er janvier 1421. Le 29 décembre, 3 jours avant, la flotte génoise arrive et libère la ville. Voilà, elle ravitaille ses habitants, qui cachent le blocus, qui se remettent au combat et qui provoquent la fuite de l'Aragon. Donc, pour nous bonifaciens, c'est quand même un événement énorme. C'est aussi le marqueur de notre histoire tout au fil des siècles. Et il y en a énormément qui ont perdu la vie ici. Et donc, on a nommé cet escalier du roi d'Aragon parce que nous, chez nous, vous le savez, hein, les Corses et les bonifaciens sont des gens qui rigolent tout le temps. Nous, on appelle ça la magagne. Hein. En français, on dit on charrie. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. On charrie. Alors, nous, on dit ça, on appelle ça la magagne. Nous, on magagne tout le temps. Et même quand on attribue des noms, on magagne beaucoup. Et alors, le roi d'Aragon, pourquoi? Parce que, en fait, il a été construit 60 ans après le siège et on a rendu hommage au roi qu'on a battu, quoi. Hein, voilà, tout simplement.
Merci Marie Sorbier et on vous retrouve demain pour la visite du musée de la préfecture de police de Paris dans le 5e arrondissement. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Roubertine.